la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Et on retrouve Caroline Fontana pour la deuxième partie de son récit, récit des eaux et des rives dans la Drôme que l'on longe, que l'on observe, que l'on sillonne, la Drôme et ses affluents, une balade au cœur du récit des habitants du pays d'Iwa.
Ça, c'est la conduite en ciment, et vous voyez l'eau passée à l'intérieur.
Daniel Ringuelet.
Plus bas, on la retrouve, mais avec un diamètre plus petit.
Sur le chemin de la source de Raïk.
C'est dans les années 30, je crois. Et ça, ouais, c'était des morceaux de ciment, de bulles de ciment d'un mètre qui les assemblaient sur place. Les Romains, eux, c'était des aqueducs. Et quand on a fait les travaux pour reprendre toute la conduite, on y est tombé sur des morceaux. Et donc, c'est tout du bâti et puis des grosses dalles par-dessus. Et tout bien enduit, propre.
Quand on a acheté le terrain où nous sommes, au Floreau, en bas du terrain, il y avait un cabanon, et sous le cabanon, il y a un aqueduc romain.
Emmanuel Poujol.
Voilà, donc je me suis renseigné, et puis c'est parti de là, donc mon intérêt pour l'histoire d'abord de l'eau, et puis après l'histoire en général, quoi. On sait que les Romains, ils avaient vraiment... c'était vraiment le luxe pour eux d'avoir de l'eau, donc ils utilisaient tous les moyens nécessaires pour avoir de l'eau. Donc on sait déjà qu'à Die, il y avait deux aqueducs qui amenaient de l'eau de Romeillé, de la source de Raï, et de l'eau de l'abbaye de Valcroissant, donc pour alimenter les fontaines et les bains publics de la ville romaine, quoi, de Dé Augustin. Et par contre ensuite, à l'époque des évêques et... plus tard, donc toutes ces installations ont été abandonnées et il y a eu vraiment de gros problèmes pour amener de l'eau à Die, quoi. Il a fallu creuser des puits, il a fallu prendre sur des petites sources qui n'étaient pas bien fiables. Pendant des siècles, ça a duré comme ça, quoi. Alors que la science romaine avait été complètement abandonnée, en fait.
Dès qu'on parle d'une ville, l'eau fait partie du récit.
Jacques Planchon.
C'est-à-dire qu'une ville, c'est forcément des problèmes liés à l'eau, puisqu'il y a forcément une rivière ou deux qui passent dans le secteur. En général, on s'installe pas très loin de l'eau, ce qui peut poser quelques petits problèmes, comme on s'en aperçoit de temps en temps. Et pour l'époque romaine, ce qui m'intéresse, de toute façon, on va amener de l'eau en ville avec des aqueducs. Et là, ça laisse des traces dans l'architecture, dans l'urbanisme, donc ça commence pour moi à être vraiment intéressant. Donc pour l'instant, on a la trace de deux aqueducs différents, un qui prend son eau aux sources de Raï, comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a refait les canalisations là, il y a quelques années, on est retombé de loin en loin sur le trajet de l'aqueduc romain, qui est plutôt bien conservé. J'ai pu me balader à l'intérieur. Avec une pente qui est sensiblement la même au départ, c'est-à-dire une pente de l'ordre de 15%, ce qui est énorme. C'est la pente actuelle, sauf que On n'a pas les mêmes moyens techniques que les Romains, donc nous, on arrive à bien encaisser ça. Pour les Romains, il y avait des ruptures de charge régulières, de façon à éviter que l'eau prenne trop de vitesse, et donc trop d'énergie. D'un côté, Railly, alors je ne sais plus en kilomètres, c'est 5-6 kilomètres, et de l'autre côté, Valcroissant, c'est un petit peu plus, ça doit être 7-8, à peu près. Donc là, on est plutôt dans des petites portions. Simplement, on est dans les Alpes. Enfin, pré-Alpes, mais il y a beaucoup d'eau. Donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher très loin. Ça se termine avec des châteaux d'eau, donc des répartiteurs. Enfin, château d'eau, c'est un gros bassin avec plusieurs prises d'eau dedans, avec des robinets. Et puis on décide d'ouvrir pour alimenter les différents tuyaux qui vont vers les différentes fontaines de la ville. Alors avec un système qui est le même partout pour l'époque romaine, c'est-à-dire que l'eau va servir en priorité à alimenter les fontaines publiques, puisque c'est là que la majorité des habitants vont aller se servir en eau journellement avec leurs cruches, leurs amphores vides, enfin, etc. Et s'il y a assez d'eau, on va commencer à alimenter aussi d'autres types de fontaines plus décoratives, qui restent publiques. Les thermes, bien sûr. Et puis en dernier, s'il y a encore assez d'eau, ça va servir aussi à alimenter les fontaines privées. Puisque les maisons les plus riches ont l'eau courante. Alors après, tout ça finit à l'égout. Donc une ville romaine, c'est aussi des égouts enterrés. C'est-à-dire des canalisations souterraines qui passent sous les rues en général, qui recueillent les eaux usé, donc ce qui sort des latrines de préférence, les trop-pleins des fontaines, mais uniquement les trop-pleins, et puis un petit peu, enfin, il y a un effet chasse chaque fois qu'il y a un orage ou qu'il pleut. Il n'y a pas de séparatif avec les pluviales, par contre il y a une bonne partie des pluviales qui finit dans la rue quand même, c'est-à-dire que toutes les pluviales ne sont pas reliées à l'égout, et donc bah, les égouts, après ça prend la pente et ça se dirige vers la rivière la plus proche. Donc ça fait, ouais, fait longtemps qu'on rejette nos déchets dans les rivières. Simplement, pour l'Antiquité, il y a peut-être moins de monde qu'aujourd'hui, donc le problème se posait différemment. L'organisation romaine, l'Empire, ça tout le monde connaît, un machin qui fait tout le tour de la Méditerranée, c'est immense en termes de territoire, c'est plus grand que l'Europe actuelle, hein, l'Empire romain, je rappelle. Et après, l'Empire lui-même se répartit en provinces dans lesquelles il y a des cités, donc ici on est dans la cité des Vaucons, et la cité des Vaucons, elle s'administre elle-même. Mais pareil, il y a un pouvoir politique, c'est l'Assemblée locale, l'équivalent, on pourrait dire, du conseil départemental aujourd'hui. En termes de territoire, c'est à peu près l'équivalent, même si c'est un peu plus grand qu'un département. Assemblée locale qui va prendre des décisions pour l'ensemble du territoire. Donc avec une notion de bien public d'une part, puisqu'ils gèrent eux du bien public, pas du bien privé. Et puis une notion d'aménagement du territoire. Il y a une conjonction entre des acquis techniques qui permettent de faire les choses, et puis une forme de volonté politique qui permet de décider de faire les choses. Donc, dès qu'on a cette conjonction-là, on va pouvoir faire un certain nombre de réalisations collectives, communautaires. Et puis, dès qu'on a plus cette conjonction-là, ben, ça s'arrête. Un aqueduc, ça sert à tout le monde. Et donc, à partir du moment où il y a une sorte de puissance publique, c'est-à-dire un État centralisé avec des fonctionnaires, ben, il y a des gens qui vont s'occuper de l'aqueduc pour tout le monde. À partir du moment où on sort de ce système-là, c'est-à-dire le Moyen-Âge, on sort de ce système, et où les choses sont régies par des petits seigneurs et des petits propriétaires locaux, bah du coup, la notion de bien public se perd, et la notion de personne au service du bien public se perd avec. Plus d'entretien, une canalisation, si vous ne l'entretenez pas, à la première occasion, elle va se remplir de boue, puis de sable, puis de feuilles, puis de etc. Et ça finit par se boucher, ça ne fonctionne plus. Petit glissement de terrain, n'importe quoi, mais à partir du moment où il n'y a personne pour remettre en état, ça s'arrête. Alors, ce dont on est sûr, c'est que début 4e siècle, quand le rempart est construit, les aqueducs fonctionnent encore, puisque le rempart en tient compte. Sinon, il aurait tout écrasé. Donc, c'est encore entretenu à ce moment-là. Quand c'est que ça cesse de fonctionner, j'en ai aucune idée. Je dirais sans planter dans les deux siècles qui suivent. Et après, par quoi c'est remplacé ? Ben, chacun se débrouille avec l'eau qu'il récupère dans les toitures, des citernes creusées ou en extérieur, des barriques, et puis voilà. Et sinon, il y a quand même quelques sources sur Dee. Il y a sans doute beaucoup de récupération d'eau de toiture qui se met en place. On va peut-être pouvoir recommencer doucement à parler de biens publics et de services publics pour le Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle, mais c'est vraiment embryonnaire. Donc ça va se développer petit à petit à partir de là, quoi. En fonction des besoins des habitants et de la réponse que le conseil de la communauté des habitants va pouvoir apporter. Ou de la libéralité de certains seigneurs. Les communautés d'habitants qui se forment, alors selon les cas, entre le XIe et le XIVe siècle, hein, ça peut être très tardif, parce qu'en fait, c'est le seigneur qui, à un moment, va être acculé à lâcher du lest et à autoriser des communautés d'habitants à se prendre en charge. C'est aussi l'émergence de la bourgeoisie, donc les gens qui mutualisent leurs propres compétences, qui décident de s'imposer mutuellement aussi pour pouvoir avoir des moyens financiers pour faire des choses dans un but commun, collectif. Enfin, en gros, les collectivités se mettent en place, quoi. C'est-à-dire que bah, les gens se rendent compte qu'à plusieurs, on arrive à faire des trucs que tout seul, on ne peut pas faire. On en arrive doucement au 19e. Et là, par contre, on a pas mal de fontaines qui se sont remis en place.
La source de Railly, qui vient de la vallée de Romeyer, a été recaptée au 19e siècle, hein, dans les 1860. Donc par un maire qui a décidé de ramener de l'eau saine à la ville, parce qu'avant il prenait de l'eau sur le canal des fonds d'eau par exemple, il y avait une prise d'eau pour la ville, mais l'eau n'était pas toujours saine, dès qu'il pleuvait elle était trouble, et puis avec beaucoup de saleté dedans, des feuilles mortes et ainsi de suite. Donc en 1860-64 je crois, ils ont recapté la source de Railly avec de nouvelles conduites, pour aménager des fontaines en ville, parce que tout le monde n'avait pas l'eau courante chez eux, bien sûr, c'était que des fontaines. Et puis voilà, comme ça, l'eau est revenue en ville, à peu près en suivant la même conduite qu'avaient fait les Romains dans l'Antiquité, quoi.
Bellegarde en Divois, hameau de Mont-Lahuc.
Donc l'eau arrive ici en gravitaire, tout en gravitaire.
Pascal
donc,
Baudin.
Le principe, c'est que je rentre ici une fois par jour quand ça a des problèmes et une fois tous les 15 jours quand tout va bien. Donc voilà, j'ai mon eau qui arrive là. Donc moi, le principe, c'est de. Donc j'ai ça qui me sert à calculer mon débit. Donc hop, je sors mon téléphone. Mes lunettes, donc ça fait 1,5 litre. Je mets le chronomètre. Voilà, donc là, je suis à 6 secondes pratiquement. Donc après. 60 divisé par 6 multiplié par 1,5 litre. Voilà, donc là je suis à 15 litres minutes, c'est-à-dire par rapport à la mesure que j'ai prise en début de semaine, j'ai déjà perdu 2 litres minutes là. Ce qui est normal, là elle va descendre lentement mais sûrement jusqu'à la fin août. Donc là dès hier j'ai prévenu la population qu'on était dans des baisses de production. Donc il faut que. Mais il faut que les consommations baissent aussi. Alors, là, ici, on a une capacité de 30 mètres cubes. Moi, mon principe, c'est que quand le réservoir, dans la journée, baisse de plus de 50 cm, là, j'ai averti vraiment les gens qui consomment de trop, quoi. si j'entends du bruit d'eau, ça me rassure, c'est que le trop-plein coule, c'est que ça va très bien. Donc l'eau, elle arrive par ce tuyau-là de la source. Elle passe dans l'UV qui est ici, et elle monte au réservoir. Après, elle ressort par la vanne qui est au bout là-bas. Et le compteur général est ici. Donc le compteur général, je le relève assez fréquemment aussi. C'est ce qui me permet de calculer la consommation. Après, je fais ma moyenne. Et puis, j'ai une molette qui me permet de savoir s'il y a de l'eau qui est tirée. Par exemple, tout de suite, il y a de l'eau qui est tirée puisqu'il tourne. Et des fois, pour savoir s'il y a des fuites ou pas de fuites, je viens des fois dans mes nuits d'insomnie. Je viens voir à 2h du matin, voir s'il tourne ou s'il ne tourne pas. Donc, ça me permet déjà d'avoir une idée sur savoir si le réseau il fuit ou si le réseau est correct. Et je fais la même chose à Bellegarde. Bon, Bellegarde, c'est un peu plus loin, donc il faut que je prenne le quad en pleine nuit. Mais sinon, des fois, je m'arrête ici un quart d'heure, 20 minutes, et je regarde s'il a des temps d'arrêt, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réservoir vide, ça veut dire que c'est une canalisation qui se vide. Et comme nous, on fonctionne tout en gravitaire, ça veut dire qu'il faut réamorcer certains secteurs. Parce qu'il y a des secteurs où, s'il y a eu de l'air dans les tuyaux, et ben, les bulles d'air peuvent faire bouchon des fois. Et du coup, il faut réamorcer le système. Et quand on met plusieurs joueurs à remplir le réservoir, je sais que la capacité de toute la tuyauterie du village, c'est pratiquement la capacité du réservoir. C'est-à-dire, si je suis obligé de réamorcer, c'est-à-dire que je suis obligé de chasser de l'eau pour chasser l'air, eh ben, je vais perdre une quantité énorme d'eau. Donc, pour avoir fait l'exercice plusieurs fois, je sais que je veux absolument éviter cet exercice. C'est pour ça que moi, c'est comme une casserole de lait sur le feu. Je veux l'avoir à la vie, quoi. Moi, je ne suis pas né ici. Je suis né en Normandie. Je suis né à Caen. Et je suis dans le territoire depuis 1982. Un peu arrivé par hasard. Au début, pour faire de la menuiserie. Et puis, en fait, de la menuiserie, ça s'est transformé en agriculture avec des terres qui se sont libérées. Et puis, plutôt que de m'installer tout seul et faire l'agriculture seul, je suis parti avec quelqu'un de Bellegarde qui était là depuis quelques années et avec qui on a fait un groupement d'exploitation en commun, un GAEC. En 1995, je me suis dit, en tant que citoyen de la commune, je voulais me mettre au conseil municipal. Ça me semblait être une démarche assez logique quand on est dans des petites communes comme ça. Et puis en fait, aux élections, j'ai eu un très très grand nombre de voix et puis j'ai été élu. Donc mon premier travail, ça a été d'aller voir l'ancien maire, lui dire que j'avais besoin de lui parce que ça s'était pas bien passé, ce conseil municipal. Il était très fâché de pas avoir été élu. Donc dans la semaine qui a suivi, mon premier boulot, ça a été d'aller revoir son maire qui était au conseil municipal en lui disant « Écoute Jean, moi j'y connais rien, j'ai besoin de toi par rapport à tout un tas d'informations sur la commune, donc je veux que tu sois mon premier adjoint et faut que tu aies aujourd'hui un rôle de former de former un nouveau maire, et c'est ce qu'il a fait en fait. Et j'ai petit à petit pris connaissance, surtout avec le fontenier à l'époque de la commune, pris connaissance de toute cette complexité qu'est le réseau d'eau, le fonctionnement de l'eau, là où étaient les compteurs, là où étaient les vannes, là où étaient les différents organes sensibles de la commune. Mais à cette époque-là, 95, c'était un peu le bazar parce que, alors d'abord, les réseaux d'eau étaient pas, les sources étaient pas conformes à la législation, c'est-à-dire que les périmètres de protection étaient pas forcément très bien entretenus, les sources, il y avait de la pollution. Donc il a fallu faire un gros travail. Et puis il y a des sources qui étaient encore sur des propriétés privées. Il y a des réservoirs de la commune qui étaient sur des propriétés privées. C'était un peu le fonctionnement ancien des réseaux d'eau. C'est-à-dire qu'on s'occupait pas trop de savoir si on était sur une propriété communale ou pas. Les gens étaient d'accord pour qu'il y ait un réservoir chez eux. Ils étaient d'accord pour qu'on prenne une source à tel endroit. Donc il a fallu régulariser tout ça. En plus, il n'y avait aucun assainissement. Donc moi,
à l'époque, je me disais que bah, il fallait qu'on modernise un peu tout ça. Et puis, comme je voulais pas endetter la commune, je me suis dit, bah, faut qu'on fasse ça sur sur 15, 20. Et puis, en fait, les derniers travaux, je les ai faits il y a 2 ans. Donc, j'ai mis 35 ans à régulariser, à refaire un réseau d'eau, à installer des UV pour traiter l'eau de façon à ce qu'on soit toujours en bonne qualité, et puis tout le réseau d'assainissement pour qu'on puisse prélever de l'eau, quantifier cette eau avec les compteurs, même sur les bâtiments communaux, sur les bassins, sur les fontaines, sur la station d'épuration, il y a des compteurs de partout, donc on sait ce qu'on prélève, on sait ce qu'on distribue. Après, c'est récupérer cette eau, retraiter cette eau et restituer cette eau au milieu naturel. C'est un cycle vertueux, pour moi, d'une commune, de prélever, distribuer, et puis récupérer et rendre au milieu naturel, quoi. Hier, j'étais avec la première adjointe et je lui expliquais qu'il allait falloir annoncer à la réunion publique. Moi, j'ai une réunion publique la samedi avec toute la population. C'est une réunion que je fais chaque année au mois d'août. Et annoncer qu'on va continuer à augmenter le prix de l'eau et inciter les gens à faire très attention aux quantités d'eau utilisées. En réunion publique, moi, ça fait à peu près 10 ans que je discute avec les gens par rapport à ça, où le sujet de l'eau revient tous les étés. Il y a même des résidents secondaires aujourd'hui qui arrivent et qui, la première de leurs questions, ils viennent me voir et puis demandent où est-ce qu'on en est au niveau du débit de l'eau, s'il faut faire attention. Donc il y a vraiment eu un apprentissage et on fait avec ce qu'il y a et je trouve que ça marche très bien.
L'eau, c'est un enjeu de pouvoir.
Poslo.
Sur les territoires.
Joël Boyard.
Posséder l'eau, ça a toujours été un pouvoir. Et en fait, c'est un atavisme, en fait. Et les maires ont transmis aussi le. En fait, on lâche pas ça, quoi. C'est notre eau, elle est à nous. Voilà. Surtout qu'il y a des communes qui ont de l'eau et des communes pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Comme ici, par exemple. Ça dépend du côté de montagne. À Brette, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau à Brette. On est de l'autre côté, on n'en a pas, nous. Enfin, très peu. On n'a pas envie d'imaginer le pire, mais on sait aussi qu'il y a des communes qui n'auront plus d'eau. Sans mutualisation, il y a une trentaine de micro-communes comme les nôtres, elles n'auront pas les moyens d'aller chercher l'eau ailleurs. Personne ne veut l'entendre, personne ne veut voir la suite, mais ça peut devenir compliqué. Et puis, effectivement, donc la commune d'Auslon, bon, on va parler de techniquement l'eau, mais il y a aussi l'exode rural, le manque d'eau a poussé les gens à partir. Ça, personne n'en parle, mais en tout cas, on le sait. C'est-à-dire que l'eau était rare, au mois de fin juin, il n'y en avait plus de disponible, et donc, enfin, les gens ne pouvaient pas vivre ni avoir une activité agricole correcte sans eau. Effectivement, on est un village entouré de montagnes. On ne le dit pas comme ça ici, mais les géographes appelleraient ça un cirque, parce que de partout, quand on est au milieu, voilà, on est entouré de montagnes, et d'où la difficulté d'accès et le temps d'accès. Historiquement, mais c'est très très loin, c'est aussi un pays huguenot. Ici, c'est un repère huguenot, je dis un repère parce que les gens s'y cachaient. Parce qu'effectivement, il y a eu à une époque 400 habitants sur la commune et on a des repères dans la montagne de petits, ils appelaient ça des fermes, mais une maison et puis chacun se débrouillait. Et dans des endroits où certains qui connaissent cette histoire nous font remarquer qu'on ne peut pas voir la ferme du chemin d'en bas, en fait. Les gens, ils étaient isolés et c'est pas un territoire, c'est pas Cocagne. Donc les gens, c'est pas un vrai choix, quoi. Que d'habiter là, c'est un des villages du point de vue agricole. Ici, c'est le terrain plat qui manque. En fait, tout est en pente raide. Et donc, c'est un peu plus compliqué. La source du Brusque, c'était l'ancienne source, mais arrivée au mois de juin, elle se tarissait. Donc, il n'y avait plus d'eau. Donc, la ressource en eau, c'était l'eau de pluie. Donc, les citernes, qu'ils appelaient les citernes. Donc, l'eau des toits. Donc, ils essayaient de mettre en réserve au moment où ils en avaient besoin. Pour les jardins, et c'est tout. Donc en fait, cette source du Brusque qui n'était pas terrible, ben, ils se sont contentés. Par contre, il y a des résurgences, mais plus bas vers la rivière, donc c'est-à-dire 400 mètres plus bas, mais à l'époque, ils n'imaginaient pas remonter l'eau, techniquement. Louis, quand il nous racontait des histoires, quelquefois, parce qu'il racontait bien les histoires, on aurait pu croire que c'était lui qu'ils avaient vécu, mais je pense qu'il parlait de son grand-père. Et par exemple, sur le flanc de montagne là, il y a plusieurs ruines, et il décrivait que les gens allaient chercher de l'eau, mais au fond, quand il disait, il parlait que les femmes allaient chercher de l'eau de l'autre côté avec des brocs ou des seaux, on imagine bien que c'était quoi, 20 litres, quoi. C'est-à-dire que les gens qui descendaient à la source, là, à Sozine, ils descendaient là, mais combien d'eau ils pouvaient remonter, c'est sûr, pas des mètres cubes. C'est la chanson de Jean Ferrat, qui est enfin, parisien, on dirait un bobo maintenant, mais c'est très bien, j'adore cette chanson. Sauf que lui, il le voit d'un point de vue idéal, et effectivement, quand on va dans, profondément dans la raison, effectivement, elle est multiple, mais c'est aussi pour ça que les guerres sont des repères, c'est que les hommes qui sont partis à la guerre ont souvent revendiqué des postes de fonctionnaires. Parce qu'ils avaient, ils avaient fait quelque chose pour la nation, et tout le monde disait, c'est ce qu'il dit dans la chanson de Ferrat, pourtant que la montagne est belle, sauf qu'on y crève de faim, quoi. Vraiment. On peut pas idéaliser cette période au niveau agricole. Justement, Louis nous a souvent raconté que, les gens, ils mangeaient des pois chiches et, enfin, voilà, même des tomates, ils en mettaient pas, quoi. Donc, c'était pas une vie extraordinaire. Que par exemple, dans la maison derrière, il y avait un vieux monsieur là qui vivait avec sa mère. Et lui, gamin, il se souvenait qu'ils avaient un tiroir dans la cuisine où ils stockaient les os de quand ils mangeaient une poule ou un poulet pour mettre dans la soupe parce qu'ils n'avaient pas de viande. En fait, ils étaient très très pauvres, très pauvres. C'est pas un caprice, hein, l'exode rural. Effectivement, déjà aller chercher de l'eau, c'est difficile. Si un jour on accède à un travail où tous les mois on est payé et en plus là où on est, il y a de l'eau au robinet. Comment disaient les anciens, comment disait Martoun, avoir l'eau à l'évier, mais à un terme plus ancien. Sur l'évier, c'est ça. Et d'ailleurs, pour aller dans les souvenirs, que Marthe la voyait faire, elle avait une machine à laver, ses enfants lui avaient acheté une machine à laver, l'eau partait dans l'évier, mais elle le récupérait en dessous pour laver la maison. Voilà, donc ça c'est des gens qui ont manqué d'eau, ils en utilisaient que très peu. Et cette récupération, et c'est pas des gens qui sont affichés écolo, mais il n'y a pas une goutte d'eau qui se perd, quoi. Ils n'auraient pas pu avoir de pompe non plus, parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'électricité est arrivée en 1960. Il y a des histoires assez cocasses là-dessus aussi, c'est que notre fameux Louis était réputé. Lui, il avait quitté donc pour Valence. Et il s'est même marié là-bas, mais il revenait quand même tous les 15 jours ici, chez voir sa mère, etc. Et lui, il savait qu'il manquait d'eau. Et quand les résidences secondaires arrivaient, il y en avait déjà dans les années 70, les résidences secondaires, qui voyaient par exemple les enfants jouer avec l'eau, pour eux c'était insupportable. Et donc, il coupait la source en fait. Il savait où aller mettre une pierre dans le. Il n'y avait plus d'eau, quoi. En 1995, en fait, des moyens ont été mis en place pour qu'on puisse remonter cette eau. Parce qu'en fait, nous, il y a peu de villages où on prend l'eau en bas, c'est-à-dire sur la résurgence. Donc, en 1995, il y a eu des gros investissements qui ont été faits. On peut dire que les résidences secondaires ont aidé à une renaissance, même si elle était un peu artificielle, parce que les gens ne sont pas là tout le temps. Mais ça a aidé quand même. On sait que, par exemple, pour les anciens, je parle à Père Jouval, c'est des gens voilà, formidables, mais quand il fallait aller sur des choses pareilles, eh bien, ça y est, c'est parti, il faut remplir des dossiers, on a... Enfin, bref, et certains, on va dire résidences secondaires, pas néo, parce que résidences secondaires n'habitent pas là, sont rentrés dans les conseils municipaux. Et je pense, alors, tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, hein, parce qu'il y en a qui ne les aiment pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité que... les gens qui ont une autre vision et puis une autre formation peuvent faciliter les choses administratives. Et c'est par l'administratif qu'on arrive à monter des dossiers, à aller chercher des subventions. Au début, je n'étais pas d'accord avec ça parce qu'on avait aussi un chercheur qui avait écrit sur notre village que c'était les résidences secondaires qui avaient fait renaître, alors que moi j'y travaillais. Et je disais, non, mais ils font quoi? Mais après, on se dit, bah oui, aussi, ils contribuent. Les méthodes empiriques, elles ne peuvent pas nous mener très très loin. C'est-à-dire, on doit rester avec ce qu'on connaît et répéter ce qu'ont fait les autres, c'est très bien. Mais quand on a une difficulté comme celle-ci, par exemple, on a des pompes un peu spéciales, ici, pour on relève de 400 mètres l'eau. Les anciens, ils auraient comment ça marche une pompe comme ça. Après, ils finissent par comprendre, mais ils l'auraient pas inventé. Donc, en fait, on a besoin de tout le monde. L'histoire, elle est faite aussi de beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le même moment, il y a des choses qui se sont passées au niveau national. C'est-à-dire que les compétences des communes ont changé, mais aussi, par exemple, l'agence de l'eau n'existait pas. Enfin, c'était les départements, etc. Mais avant, il y avait peut-être pas grand-chose pour ces territoires. Donc, en fait, quelquefois, il y a des gens qui arrivent dans l'histoire, on dit, ben, c'est grâce à eux, mais c'est aussi, il y a eu un autre mouvement en même temps. Et grâce au fait que on remonte cette eau par des pompes à vis sans fin, l'eau pour la population, elle ne manque pas ici. Nous, avec notre urgence qui est tout en bas, en fait, le niveau, il est toujours bon. On a un réservoir qui est en haut, on prend l'eau en bas, on remonte de 400 mètres, on la stocke dans 50 000 litres. Et puis après, ben, on prend quand on en a besoin. On amortit les travaux sur 40 ans. Donc on est encore en train de les amortir. C'est presque la fin. Mais n'empêche qu'on a d'autres travaux à faire. Et donc, le budget de l'eau dans notre commune est déficitaire parce que les gens, c'est drôle de dire ça aujourd'hui, n'utilisent pas assez d'eau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Ici, il y a 18 personnes qui vivent à l'année. Il y en a 50 électeurs. Donc le reste, c'est les résidences secondaires. Donc nous, on a des résidences secondaires qui utilisent 5 mètres cubes par an. Donc ils abondent dans la caisse de notre budget de l'eau à hauteur de donc 5, oui c'est ça, 10 euros quoi. Et voilà, donc il y a un compteur, il y a une infrastructure et il y a peu de consommation. Donc on a un déséquilibre par manque de consommation d'eau. C'est paradoxal parce qu'il y a un déficit, il est financier. Mais on pourrait aussi, comme je disais tout à l'heure, si on était 50 toute l'année, avoir un manque d'eau pour de vrai, quoi. Là, c'est pas l'eau qui manque, c'est l'argent.
Vallée de la Roanne, à Brette.
Oh, la croche, ok. Non, du moment que la mienne, c'est bon après, je pense.
Joël Bonnard.
Voilà.
Du coup, vous êtes de quelle commune?
Moi, je suis de la commune de Pradel. Un habitant de Pradel et je travaille aux communes depuis 1998. Donc ça fait déjà 26 ans. Mais bon, voilà, au départ c'est beaucoup pour les chemins. Et après l'entretien des réservoirs, le captage d'eau, tout ce qui est débit d'eau, c'est vrai que je les contrôle régulièrement maintenant, tous les 15 jours. Je vais au captage ou au réservoir et après il y a un compteur à sortie d'eau réservoir aussi qui a été mis. Donc tous ces relevés-là, tous les 15 jours, sont effectués dans les deux communes sur trois. C'est du travail, c'est le quotidien. Puis je fais ça. C'est un travail qui me plaît, donc voilà. Sur Pradel et Brette, je fais des relevés parce que l'eau captage, c'est l'eau, elle vient au village par gravité. Et au Solon, en fait, c'est une pompe qui remonte l'eau. La pompe, c'est que la demande en fonction du réservoir. Pradel, il doit y avoir 26 habitants. Et au Solon, il doit y avoir 12 ou 15 habitants. Et oui, ça, c'est des habitants, des résidents à l'année. Parce qu'après Pradel, l'été de 25 habitants, l'été on passe à 250. Il y a beaucoup de surveillance la semaine du 15 août, parce que toutes les résidences secondaires sont ouvertes, et plus du monde au camping, donc forcément, le premier travail, moi le matin, c'est d'aller voir si le trop-plein coule ou pas, le trop-plein du réservoir. Si dans la nuit ça se refait, il n'y a pas de souci, tu pars tranquille pour la journée. Si un jour il ne coule pas, le lendemain il ne coule pas, tu sais que l'eau qui arrive, il y a plus de demandes que ce qui arrive. Forcément, au bout de 3-4 jours, ça coince. Une année, on fermait le soir à 23h et on rouvrait le matin à 6h. Voilà, maintenant, comme on a des compteurs sortie réservoir et tous les abonnés ont un compteur, donc le problème des fuites sera résolu parce que c'est, on le verra vite. Mais l'an dernier, le 12 ou 13 août, on aperçoit que le trop-plein ne coulait pas un jour, le lendemain, pareil, le réservoir baissait, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait deux fuites au village. Et le réservoir continue à baisser, et quand tu as 200 personnes, c'est pas facile. Après, tout le monde est conscient, mais voilà, après, c'est une organisation dans le travail, et puis voilà.
Et pour trouver les fuites, comment vous faites ?
Après, tu passes aux endroits où tu essayes de suivre, la conduite, quand on connaît la conduite déjà. Et puis après, tu vas carrément écouter les compteurs d'eau. Tu demandes aux habitants de fermer tous les robinets chez eux, voir s'il n'y a pas une sortie d'eau. Et après, si le compteur tourne, c'est qu'il y a un problème entre le compteur et chez eux. C'est ce qui s'était passé l'an dernier. Celle de l'an dernier, elle ne sortait pas. Ça faisait un drain dessous, ça ne ressortait pas en surface. Donc ça a été difficile de la trouver. Mais après, bon, quand il y a beaucoup de débit, après tu y vas par élimination, tu fais une tranchée avec une mini-pelle et il n'y a que ça. Après, c'est vrai que tu rentres vite dans des travaux, un coup. Hein. Mais après, voilà, celui qui connaît le réseau, c'est vrai que c'est rien. Quand tu es habitué, après, ça a été transmis de génération d'autres personnes et voilà. Moi, c'était mon père. Oui, parce qu'avant, c'est sur Pradel, c'était mon grand-père qui était la commune, mon père. Et maintenant, c'est ma compagne. Donc, oui, c'est vrai que pour celui qui connaît pas, c'est la personne est perdue. Et moi, c'est l'inverse. Tu pars du captage, je vais jusqu'au réservoir en suivant la conduite. Dans le village, je suis à tel endroit où ça passe. Et puis même après, tout ce qui est détecter une fuite, je le fais avec des baguettes. Il y en a qui y croient pas, il y en a qui rigolent, mais ça marche avec beaucoup de personnes. Mais pour rechercher des fuites, j'en ai eu trouvé sur Pradel, le hameau d'Eglésol, qu'on est tombé pile dessus, sur la conduite, et sans chercher une demi-journée. Ben, j'ai eu faire d'autres personnes sur... sur Volvan, il y a quelques années. Le monsieur, il arrivait, il prenait deux baguettes de bois et que ça marchait pareil. Et après, il me les donnait. Sur le coup, au début, c'était la plaisanterie. Et puis, je vois que maintenant, je m'en sers comme outil de travail. Et c'est magnifique, après. C'est vrai que ça aide. Oui, c'est un plus.
Vous pouvez me les montrer ?
Oui. Même avec mes initiales. Là, c'est des baguettes, voilà. C'est fabrication maison, mais c'est...
Donc c'est quel métal ?
Ça, c'est du laiton. Et ça, c'est du cuivre. Et ça, après, quand tu passes sur une conduite, après, il y a pas de la préparation, mais tu te concentres. Et c'est vrai que quand tu arrives sur une conduite d'eau, après, tes baguettes se croisent. Et après, même moi, si j'insiste un peu, honnêtement, je sens le palpitant dans la main qu'il faut même que j'arrête parce que tu sens que comme si le cœur tape plus fort. Donc c'est un truc que je pense que ça fatigue même sur le corps aussi. Mais
ça fait combien de temps que vous pratiquez ça ?
Une dizaine d'années peut-être. Mais ouais, sur le coup, tu en rigoles et puis après, en fait, c'est un outil de travail. Un outil de travail, oui, c'est une chose. Pour rechercher une conduite d'eau ou rechercher une fuite, c'est peut-être un gain de temps aussi. Que la personne qui passe là peut dire, rigoler ou dire qu'est-ce que tu fais avec ça, mais pour moi, non, c'est pas. Je rigole pas là-dessus. Et bon, après, on n'est pas tous pareils. Et au début, je faisais avec deux bouts de fil de fer. Et après, un collègue m'a carrément fait faire ça. Et après, je pense que c'est beaucoup plus précis.
Elles sont belles, hein ?
Ben oui, c'est... Donc voilà, ça c'est à moi. C'est mon matériel. Et moi, quand j'avais arrêté l'école, j'avais travaillé 3 années à l'ONF. Et après, bon, il n'y a plus de crédit ouvrier. Peut-être qu'après, autrement, j'y serais encore. Mais après, entre la commune et ma ferme, c'est vrai que ça complémente bien. Et de travailler seul, tu gères ton temps, tu fais ton travail. Et puis voilà, après, ils me font entièrement confiance. Le travail est fait. J'avais repris l'exploitation de mon père, moi, en 2007. Donc après, on a 280 brebis, la viande, et puis un peu des noix et du lavandin. Mais autrement, la principale activité, c'est l'élevage, et l'élevage au vin. Et c'est vrai qu'en travaillant, en étant sur place, et 3 jours par semaine, ça fait un complément de revenus. Et tout en étant pas loin des communes. Et après, c'est le problème, nous, c'est l'été. Donc pour le mois d'août en particulier, comme il y a beaucoup plus de monde au village, tout ce qui est pour abreuver les brebis, en fait, on essaye de faire remplir les citernes d'eau qu'on amène dans les parcs. On les fait remplir à un trop-plein d'une commune voisine. Ou tout ça pour soulager, moi je dis pour soulager la population. Sur la commune, il va y avoir deux compteurs grande consommation. En fait, c'est nous pour l'élevage et le camping pour eux. Parce que moi, quand je vois le réservoir baisser de 10, 20, 30 cm tous les jours, je dis ça va coincer, il va y avoir un problème d'eau. Et si parmi, je prends 4 mètres cubes ce jour-là sur 26 mètres cubes, t'as vite fait le taf. Hein. Et s'il arrive une fuite à ce moment-là, tu es marrant. Après, voilà, c'est pour ma conscience professionnelle, pour être, pour dormir tranquille.
Donc au mois d'août, vous partez pas en vacances, vous, par exemple, c'est impossible.
Non, voilà. Non, entre l'élevage et le suivi des sources, non. On attend toujours. Si on part, c'est fin août, début septembre. Et cette année, on n'a pas pu partir du tout parce qu'on a eu un gros souci sur le troupeau, comme beaucoup d'éleveurs. La fièvre catarrhale qui s'est mise, même dans la vallée de la Rouanne, et ça a été... c'est l'horreur. On a perdu entre 8 et 10% des bêtes, donc c'est énorme. Moi, du moment que j'en perds une, je me rends malade, donc là, on en a perdu beaucoup trop. Il y a presque quand je travaille aux communes que je suis loin de la bergerie que je me sentais un peu plus soulagé.
La ferme que j'avais sur Minglon était en bordure de rivière.
Claude Verret.
Je devais avoir 3 km le long de la rivière.
Sur les rives de la Drôme.
Et la première année, j'ai arrosé. Tout le monde, il fallait arroser. Les prairies ne poussaient pas si on n'arrosait pas. Et j'ai arrosé. Plutôt que d'adapter nos cultures et nos semences à la terre et au climat, on peut semer n'importe quoi, c'est-à-dire on semait du régras anglais ou n'importe quelle variété, de la fléole, de la fétuque, puis on arrosait. C'est vrai qu'avec l'eau, tu peux faire pousser n'importe quoi. Hein. Il n'y a plus de notion de qualité de semence, d'adaptation à la terre, adaptation au climat. Tu peux faire pousser des choux-fleurs à 10, hein, si tu arroses bien. Et en réalité, c'était une erreur fondamentale. Et ça a commencé comme ça, la relation à la rivière. J'ai commencé à arroser, puis après, ça, dans le cheminement, je me suis dit, mais c'est stupide d'arroser. En plus, ça coûte une fortune. Et puis les infrastructures. J'ai même essayé de faire une retenue collinaire pour garder de l'eau. Enfin, je me suis fourvoyé dans le productivisme. Puis petit à petit, je me suis dit, non, il faut travailler autrement. Il faut avoir une autre relation à l'eau. Et donc, je n'ai plus jamais puisé dans la rivière. C'est la première chose. Et du coup... plus puiser dans la Drôme, c'est un challenge parce que aujourd'hui les agriculteurs qui irriguent, tu peux pas les empêcher d'irriguer parce qu'ils sont passés à des productions qui demandent de l'eau, du maïs ou d'autres variétés, des régras ou qui demandent beaucoup d'eau. Et en réalité, la première démarche, c'était de pas aller puiser dans la rivière. Et donc ça a été la première. Après, la rivière m'a surpris. Elle m'a fait un sale coup. Une année, c'était en 73, je crois, ou 74. Elle a débordé et elle m'a emporté à peu près 2 hectares de terrain, de terre agricole. Elle était tellement violente qu'elle m'a embarqué, 2 hectares de terre. Alors un paysan qui perd 2 hectares, ça te met les boules. Et quand elle déborde, il y a deux choses. La première chose, c'est les ravinements. Et la deuxième chose, c'est qu'elle monte. Sur des photos, sur une photo, par exemple, qui doit être dans les archives départementales, la rivière est montée tellement haut, il a tellement plu, que la gare est inondée. Donc ça veut dire qu'à un moment, elle peut être furieuse. C'était carrément dramatique quand il n'y avait pas eu les plantations de pin noir sur le Diwa. Parce qu'à l'époque, il pleuvait comme aujourd'hui, mais peut-être un peu plus encore, et tout était raviné. Il n'y avait aucun arbre. Enfin, si tu prends les photos, les premières photos du Diwa de l'Office national des forêts, 1850-1860, toutes les montagnes du Diwa sont pelées, elles sont grises. Tu voyais l'os de toutes les montagnes. Et les paysans, à l'époque, pour des raisons très économiques, ils pâturaient en brebis ou en chèvre, et ils empêchaient toute repousse de quoi que ce soit. Le peu qu'il y avait, ils en utilisaient ou du bois de chauffe ou de la charpente, et donc il n'y avait pas de bois. Et donc, à un moment, l'Office national des forêts s'est dit, mais comment on va faire pour éviter que toutes ces terres arables, toute cette terre, ces alluvions, partent dans la rivière Drôme, arrivent dans le Rhône et comblent le port d'Aigues-Mortes en réalité. Pourquoi Aigues-Mortes? Parce que c'est plus un port, parce que les alluvions du Diwa, de Beaurières, de la Bâtie des Fonds sont descendues à Aigues-Mortes et ont rempli l'estuaire du Rhône. Et donc toute la terre partait, toute la terre fichait le camp. Moi j'ai connu deux moments très divers, très différents. La première chose, c'est le réensauvagement, oui. Parce que les petites fermes qui étaient perchées un peu trop en altitude, les gens sont partis. D'ailleurs, tu peux les revoir, il y a des ruines souvent, tu vois des peupliers de loin. Tu te dis, ah, là, il y avait une ferme, tu y vas, tu es sûr que d'avoir une ruine à la base. On mettait des peupliers parce que souvent, ça pompait l'eau à un endroit, il y avait une source. Quand il y a un peuplier, il y avait une source. Et donc, il y a beaucoup de fermes qui ont été abandonnées, surtout sur le Diwa périphérique, sur les montagnes, sur les petites fermes de montagne. Donc, on a vu le réensauvagement arriver d'abord. Avant les animaux, on a vu arriver les buissons. On a vu arriver pas mal de pins qui sont venus naturellement par les graines. Et puis, par les oiseaux. Les oiseaux sont des grands semeurs de graines partout. C'est eux qui font le principal job. Et puis, après, il y a des houx qui poussent. Il y a toutes sortes de variétés de plantes. Alors, est-ce que c'était positif ou négatif? Je pense, moi, que c'était très positif parce que c'était des terres très dures à travailler. Moi, j'ai plusieurs copains qui se sont renversés en tracteur et qui sont morts, quand même. Donc, c'était plutôt positif de voir ce réensauvagement. Et puis après, sont revenus plein d'animaux qui sont sur les ruisseaux, par exemple, les écrevisses à pattes blanches, mais aussi la loutre qui est en train de remonter. Enfin, il y a plein d'animaux qui recolonisent les territoires. Je ne parlerai pas du loup, mais ça fait partie du job. Des animaux de revenir là où il y a de l'espace qui est sauvage. Et en même temps, en 70, 71, 72, 73, il y a eu le remembrement. Minglon en particulier, et puis les bonnes terres agricoles du fond de la vallée. Et le remembrement, ça a été la destruction des haies, la destruction des ruisseaux, la destruction des mares, la destruction des arbres dans les champs. Il fallait araser tout, que ce soit plat, pour faire passer les machines agricoles, pour regrouper les terres et tout. Et donc, du coup, ça a été bénéfique pour l'agriculture intensive, pour l'agriculture industrielle ou mécanisable. Et ça a été une catastrophe au niveau de la biodiversité et au niveau de la rétention de l'eau. Non, on était dans cette vision progressiste où le progrès, il faut des champs qui soient grands. On passait un temps fou à marche avant, marche arrière pour labourer. La moissonneuse passait pas, c'était galère, il fallait couper des branches des arbres pour faire passer la moissonneuse. Quand tu partais, il fallait faire 3 km pour faire un petit champ, alors tu passais un temps fou sur la route pour faire pas grand-chose. Et donc, quand on nous a regroupés et tout, on s'est dit, bah ouais, c'est un bon plan, on a des parcelles qui font 5 hectares, tu laboures le matin, tu as fini le soir, tu sèmes le lendemain d'un même coup. Non, c'était vraiment une belle vision. Le problème, c'est qu'après, ces parcelles, tellement elles ont été labourées et tassées, c'est que l'eau qui s'infiltrait dans les ruisseaux, qui s'infiltrait dans les rigoles, qui s'infiltrait autour des arbres, des noyers, il y avait beaucoup de noyers dans nos champs, qui s'infiltrait de partout, on pouvait toujours rouler dans les champs. Et après, ça faisait des sortes de mares et tu ne pouvais plus rentrer dans les champs. Ils étaient asphyxiés au niveau des sols, c'était terrible. Ça, c'était une des choses, donc la première chose, et puis tout a disparu. Du coup, comme il n'y avait plus de haies, il n'y avait plus d'oiseaux. Quand il n'y avait plus d'oiseaux, il y avait plein d'insectes, des ravageurs, il y avait plein de trucs qui bouffaient ce qu'on avait semé. Donc ça a été totalement contre-productif, in fine. Pour l'agriculteur qui avait arrivé à gérer tant bien que mal les équilibres, ça a été une catastrophe. On est dans un système agricole catastrophique qui est en train de détruire les terres, mais de polluer les rivières, de polluer les ruisseaux. On a pris les choses complètement à l'envers, bien sûr, au niveau agricole. Et j'ai participé à ça parce qu'on n'était pas conscient à l'époque de la biodiversité comme aujourd'hui. On n'avait pas lu Morisot, on n'avait pas fait plein de choses et on était naïfs. Mais surtout, on était dans cette vision du progrès. Plus de machines, plus d'investissements, plus d'engrais, plus de terres. On s'est agrandi et tout. Et en plus, les jeunes qui s'installaient, moi je me suis installé en 72. Les jeunes qui s'installaient, ils voulaient faire presque mieux que les anciens parce que tu es regardé dans le monde agricole quand tu t'installes. Donc, il fallait vraiment que tu fasses tout parfait. Et en définitive, on était très cons parce que nous aussi, on labourait jusqu'au bord de la rivière parce qu'on voulait faire voir qu'on était très, très bon au niveau technique. Et en définitive, on avait absorbé le productivisme et le progrès par les écoles d'agriculture, les techniciens agricoles, les techniciens des coopératives. Et on s'est fait un peu avoir. La notion de préserver la biodiversité, elle est venue beaucoup plus tardivement. Tu sais, j'ai un copain qui était éleveur, qui est décédé il y a 2 ans. Et il m'a dit, tu sais, quand le loup est arrivé, un éleveur de brebis, quand le loup est arrivé, c'est la première fois que je descendais de mon tracteur. Descendais dans un champ, quoi. Tu rentres dans un champ, tu laboures ou tu sèmes et tu fais ton job, tu repars à la ferme, tu repars à la maison. Et là, il a vu un loup dans une haie. Il est descendu du tracteur, il est rentré dans la haie, il est rentré dans la forêt pour voir où il se dirigeait, ce qui se faisait et tout. Il m'a dit, ça m'a chamboulé ma vision du monde. Parce qu'avant, j'étais un agriculteur et après, j'étais un paysan, un homme du pays et je m'intéressais à mon environnement. Il a fallu qu'il y ait un prédateur qui viennent autour de mes brebis pour que je retrouve cette sensibilité que j'avais voulu, que j'avais imaginé, il m'a vraiment dit ça, dans les années 70, et que j'avais perdu. Tu sais, tu perds le fil dans le productivisme agricole et tout. Tu es obligé de travailler. J'ai des copains paysans, ils travaillent 10 heures par jour. Et tu perds le fil de ce pourquoi tu as choisi la terre. Ça lui a remis les pieds sur terre en disant, mais j'habite un territoire formidable. Je n'étais jamais rentré dans la forêt. Et tu te rends compte le basculement, quasiment, un basculement intellectuel, un basculement sensible, un basculement de la tête et du corps et du cœur. Il arrive et il dit, mais j'avais choisi ça quand il s'est installé en 73, 74. J'avais choisi ça initialement. Je l'avais perdu dans mon cheminement. C'est cette relation au vivant qui est en train de renaître. Mais moi, j'ai subi la technostructure quand elle nous s'est imposée, comme le remembrement à Minglon. Mais en réalité, j'ai toujours eu cette sensibilité. Je me suis installé sur les fermes familiales, aux grandes dames de ma famille, parce qu'ils s'étaient arrachés de la terre, au grand bonheur de mes grands-parents qui me voyaient reprendre la ferme. Et là, moi, j'étais amoureux du territoire, amoureux de mes grands-parents, amoureux des anciens, amoureux des vaches. J'avais des vaches laitières. Hein. J'étais amoureux des vaches et amoureux de la rivière, des terres, de la prairie, des arbres fruitiers. Ma grand-mère et ma grand-tante qui m'ont élevé, elles étaient nées en 1870-1880, tu vois. Donc, c'était une génération qui est morte il y a 20 ans, 20 et quelques, 30 ans. Et donc, cette alliance avec les anciens, moi, je l'ai toujours cultivée. Je trouve qu'ils sont un peu, je mets des guillemets, un peu les peuples premiers de notre territoire parce qu'ils ont connu l'agriculture avant la mécanisation. Donc, cette façon d'être dans les champs à pied, de voir les haies, d'être attentif.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.